Alors, le titre de mon message, ce que chaque pasteur voudrait te dire. Donc tout le monde est concerné, ça. Alors, il y a différents types de messages. Il y a des messages qui vont expliquer les enseignements de la Bible. Il y a des messages qui vont être beaucoup plus tournés vers la pratique de la vie chrétienne. Et il y a des messages qui vont parler de l'Église universelle, l'Église locale. Et ce matin, c'est sur ce dernier point que j'aimerais parler. Alors, on dit que le plus grand gaspillage alimentaire est alimentaire. Le plus grand gaspillage qui existe sur Terre est le gaspillage alimentaire. Ce n'est pas forcément tout ce qu'il y a dans la benne à ordures, hein, parce que les déchets sont les déchets. Mais le gaspillage alimentaire, c'est-à-dire qu'il y ait des bons produits qui soient jetés, qui ne soient d'aucune utilité. Alors, je suis un petit peu désolée que ce soit avant de passer à table, mais les choses vont s'améliorer, ne vous inquiétez pas. Les statistiques montrent que chaque Français jetterait 7 kilos de nourriture encore emballée par an et par personne. Donc, vous pouvez imaginer ce qui part à la poubelle, qui est bon, qui n'a jamais utilisé, multiplié par combien ? 3, 4 dans votre foyer. En tout, 20 kilos de nourriture encore consommable par an et par personne. En Angleterre, on dit que c'est un quart des produits achetés qui finissent à la poubelle. En France, 10 millions de tonnes de nourriture destinées à l'alimentation humaine est jetée, de quoi nourrir 10 millions de personnes. Et vous dites, bon, pasteur, alors tu vas nous faire un cours sur le recyclage, sur la manière d'acheter ou quoi ? Non, mais si je pense au gaspillage, c'est parce que pour moi, le plus grand des plus grands gaspillages se joue au niveau des ressources humaines. Et là, je parle pour l'Église. C'est-à-dire que dans les Églises, il y a des tas de personnes, numéro 2, qui, quand je dis sont jetées à la poubelle, ce n'est pas le mot, mais qui ne servent à rien. Numéro 3, qui sont des personnes qui ne... C'est la meilleure image que j'ai trouvée, je n'ai pas trouvé autre chose. Mais des tas de personnes dans le corps de Christ qui, en quelque sorte, ont un peu le même standing que s'ils avaient été jetés à la poubelle. C'est-à-dire, on ne s'en servira pas. Le Seigneur ne pourra pas s'en servir. Très souvent, ce sont des gens qui ont des dons, qui ont une expérience avec Dieu, mais qui ne savent pas comment collaborer avec un pasteur, parce qu'ils ne savent pas comment Dieu s'y prend pour amener son plan à la réalisation sur terre. Comment Dieu accomplit sa vision. Dieu a une vision pour chaque église locale. Dieu a une vision pour l'Église universelle au 21e siècle. Dieu a une vision pour les jeunes de notre génération. Il a une vision pour les personnes âgées de notre génération. Il a une vision, un idéal des choses qu'il voit d'avance pour les couples de notre génération, pour les célibataires de notre génération. Mais il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas faire et beaucoup de dons, de talents qui ne servent à rien parce que les gens ne savent pas comment Dieu s'y prend pour amener sa vision, son idéal à la réalisation. Alors, d'après la parole de Dieu, on voit clairement que quand Dieu veut faire quelque chose, il se trouve une personne. Il se suscite un individu. Par exemple, et ça c'est quelque chose que j'explique dans les classes d'Idement Plus, ces classes informatives sur le fonctionnement de l'Église, quand des gens veulent justement dire « moi j'aimerais bien être membre de l'Église, mais comment fonctionne-t-on dans cette Église-là » Eh bien, je parle notamment de ces choses. Par exemple, Abraham, quand Dieu a voulu se susciter un peuple, il s'est suscité un homme, Abraham. Il l'a appelé Ur en chaldée. Et quand Abraham l'a suivi, eh bien, il a amené avec lui des personnes. Et de ces personnes, avec Abraham, Dieu s'est suscité un peuple. Ils n'ont pas voté pour savoir où Abraham devait aller. Ils n'ont pas élu Abraham. Abraham a été un choix souverain, un choix divin. Dieu voulait une tribu, Dieu voulait un peuple, il s'est suscité une personne. Également, quand Dieu a dit « Il est temps que mon peuple sorte de cet esclavage d'Égypte », qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu s'est suscité un homme. Il s'est suscité Moïse. Il s'est suscité un individu. Il se l'est trouvé et il a appelé cet individu à marcher avec lui. À sa suite, le peuple hébreu a été délivré de l'esclavage. On voit également que quand le peuple d'Israël est arrivé aux frontières de la terre que Dieu leur donnait, de la terre promise, Dieu n'a pas demandé que tout le monde vote pour voir comment la terre serait divisée. Dieu n'a pas dit, eh bien, j'attends l'avis et le conseil de tout le monde. Il s'est suscité un individu, un homme, qui est Josué. Il a parlé à Josué, il a mis à cœur ses propres désirs dans le cœur de Josué. Et Josué, marchant avec Dieu, a répété à tout le peuple, voilà ce que Dieu voudrait faire, et tout le monde a suivi. On voit également que quand les Hébreux se sont installés dans la terre promise, eh bien, ils ont dit, nous, on aimerait bien vivre comme tout le monde. Et qu'est-ce que Dieu a fait ? Il leur a donné un juge à la fois, et à travers ce juge, l'Éternel a fait passer ses instructions. Puis il y a eu un roi à la fois, et l'Éternel a fait passer ses instructions. Puis plus tard, quand le moment que le plan de la rédemption arrive à son accomplissement, quand les temps ont été accomplis pour que le salut soit disponible à toute l'humanité, qu'est-ce que l'Éternel a fait ? Il s'est suscité un homme, son fils, devenu homme, qui a revêtu la chair. Il s'est suscité un sauveur, pas 36. Et à travers ce sauveur, eh bien, il a annoncé le plan de la rédemption. Et puis on voit également que le Seigneur nous a montré quel est le principe non seulement de l'Église universelle, mais de l'Église locale. Bien, c'est à travers l'analogie que Paul nous a donnée. On le retrouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 14, 21 et 27, je vous le lis. Ainsi le corps, en parlant du corps d'une autre, mais l'Église locale constitue un corps. Et il nous est dit, si le corps n'est pas une seule partie, mais une multitude, si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, il n'en ferait pas moins partie du corps. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, elle n'en ferait pas moins partie. Donc si, par exemple, une oreille dit « Ah, parce que je ne suis pas une oreille, je ne fais pas partie du corps. » Oui, tu es une oreille, tu es un orteil, tu es un foie dans une église locale, dans un corps local. Eh bien, que tu le veuilles ou pas, tu fais partie d'un corps. Et c'est ce que le Seigneur nous dit, que l'Église locale fonctionne comme un corps. On est tous quelque chose dans un corps, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit opérationnel ou pas. Donc, on peut voir que quand il y a des gens qui disent, eh bien, je sais que Dieu m'a placé dans un corps, parce que la Bible nous dit que l'Éternel a placé chacun dans le corps comme il le veut. C'est-à-dire que si vous êtes membre de cette église-là, eh bien, l'église, la bonne nouvelle, a résonné en vous parce que le Seigneur a mis en chacun de nous le désir, la connaissance, on a reconnu, oui, on fait partie de l'église à bonne nouvelle. Comme d'autres disent, ben non, moi je fais partie de l'église baptiste. Et c'est bien. Comme d'autres disent, ben moi je fais partie de l'église des assemblées de Dieu, etc. Et c'est bien. Mais la Bible nous dit, Dieu place chacun comme il veut dans le corps. Et ensuite, eh bien, chacun fonctionnant, le corps, eh bien, va réaliser le plan que Dieu a pour l'église locale. Dieu a un idéal pour chaque église locale. Dieu a des objectifs pour chaque église locale. C'est pour cela que chaque église locale n'est pas comme toutes. Elles sont toutes différentes. Et c'est bien comme cela. Parfois, les gens se sentent menacés avec les différences qu'il y a entre les églises locales. Mais c'est bien, parce que chaque église locale devrait avoir des membres qui comprennent la perspective de cette église. Il y a des gens qui sont dans cette église qui ne pourraient jamais être dans une autre qui est plus traditionnelle. Et il y a des chrétiens qui sont dans une église dite traditionnelle qui ne pourraient jamais être dans la nôtre. Mais l'essentiel est de dire où est-ce que Dieu m'a placé. Et maintenant que Dieu m'a placé, la question est, vais-je me comporter, numéro 3, comme un produit qui n'est pas consommé, un produit jeté, ou vais-je accepter de faire ma part? Je crois qu'il n'y a plus personne là qui peut me donner la numéro 3. Ou vais-je me comporter comme quelqu'un qui dit, ben, je suis à ma place, et comme chaque cellule du corps, je vais fonctionner. C'est-à-dire que vous comprenez que dans une église locale, eh bien, personne ne peut être forcé à faire quoi que ce soit. Personne. C'est en fonction de la révélation que l'on a de Dieu. C'est en fonction de ce que l'on comprend du plan de Dieu. Et en continuant, gardez cette photo là, hein, mais je vais simplement vous lire la suite. Il est dit, verset 18, « En effet, Dieu a placé chacune des parties dans le corps comme il l'a voulu. » Alors, quand quelqu'un est membre de cette église, on pourrait dire, ben, « Il veut être membre de telle ou telle église. » Oui, mais à vrai dire, c'est parce qu'il a reconnu le désir de Dieu pour lui. Dieu a mis ce désir. Dieu a un plan pour notre génération. Dieu place les siens là où il voudrait qu'ils soient. Pour le bien de l'individu, parce qu'il sait ce qu'il va recevoir dans tel corps et dans telle église, et pour le bien du corps, tandis que cet individu participe. Je vous dis, le plus grand gaspillage en France, je parle de mon pays, de ce que je connais, et de Monaco aussi, parce qu'on est trop voisin pour ne pas savoir ce qui se passe. Mais le plus grand gaspillage en France n'est pas le gaspillage alimentaire. Dans l'Église, le plus grand gaspillage est le gaspillage des ressources humaines. Parce que d'abord, trop de gens sont en dehors des églises locales. Trop de gens essaient de fonctionner en dehors d'un corps local. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont appelés à être un foie, qui sont appelés à être un estomac. Bon, on peut le dire, parce que là, il est question de l'œil, de l'ouïe, mais on sait ce qu'il y a quand même dans un corps. Il y a des gens qui sont appelés à avoir certaines fonctions, qui sont appelés à être une oreille dans un corps, et qui sont quelque part au lit à midi. Ils ne font rien pour le corps, ils ne font rien pour leur génération. Mais le pire, c'est qu'ils font du surplace dans leur vie chrétienne. Ils n'avancent pas, Il n'avance pas. Alors, le verset continue en disant, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Vous êtes le corps du Christ, vous en faites partie, chacun pour sa part. C'est-à-dire que le Seigneur nous a placés. Il y en a certains parmi nous qui sont un œil, certains qui sont une oreille, certains qui sont une trachée dans un corps local. L'Église locale est un corps local. Certains sont un nez, certains sont un index, certains sont les cellules des reins, d'autres sont des artères, certains sont des muscles de la jambe. Nous sommes tous quelque chose dans une Église locale. Et ce qui fait la richesse et la puissance d'une église locale, mes amis, c'est la différence. Le jour où une église locale n'accepte plus que les gens qui sont comme eux, je vais vous dire, c'est pratiquement la fin de cette église locale. Dès que l'on veut que tout le monde soit comme nous, d'abord je trouve que c'est très sectaire, parce que la Bible met l'accent sur la différence. Dans une église locale, apprécions le fait que les gens ne pensent pas comme chacun. Apprécions pourquoi ? Parce que quand nous pensons tous différemment, nous pouvons tous apporter des idées différentes. Nous pouvons tous faire les choses différemment. Et c'est là que nous grandissons. Et c'est là que nous sommes enrichis. Alors, comme on le voit, quand le Seigneur, là c'était l'apôtre Paul a compris que le Seigneur agissait à travers une église locale comme à travers un corps. Mais combien y a-t-il de têtes sur votre corps ? Certains, ils ne sont même pas sûrs. Hein ? Il y a une tête. Le Seigneur, le principe biblique que l'on voit, c'est que quand Dieu veut faire quelque chose, le Seigneur se suscite une personne. Alors, la personne qui est ointe pour administrer une église locale, pour lui donner une direction, eh bien, c'est le pasteur. Alors, je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il y a quelque chose que je voudrais dire concernant ceux qui acceptent la tâche du pastorat. Quelquefois, on voit des pasteurs, des prédicateurs, on dit « Oh là là, c'est magnifique, t'as l'impression que lui, il est né avec un micro à la main. » Je voudrais juste vous parler de la réaction de certaines personnes qui ont répondu à l'appel et qui sont dans les Écritures. C'est-à-dire qu'il faut réaliser, quand Dieu se suscite une personne, il ne va pas prendre une personne qui a bac plus 30. Il ne va pas prendre une personne qui a toute l'assurance et toute la connaissance nécessaire. Il ne va pas prendre une personne qui a connu toutes les victoires. Voilà le genre de personne qu'il va se susciter. Moïse était dans le désert, était en train de garder les troupeaux. Tout d'un coup, il voit un buisson ardent. Il entend l'appel du Seigneur. Et voilà la réaction de Moïse. Je vous le lis uniquement dans Exode chapitre 4, verset 10. Et il dit, « Pardon, Seigneur, mais je ne suis pas un homme à la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant, ni depuis que tu me parles à moi, ton serviteur. J'ai la bouche et la langue pesante. » Il y a de grandes chances que Moïse de gauche. Notre grand Moïse avait la langue embarrassée, la langue pesante. Et le Seigneur dit, toi. Et puis, il y en a d'autres encore. David. Gédéon, pardon, prenons Gédéon. Lui, il se cachait, il avait peur. C'était une époque où les Madianites, eh bien, oppressaient le peuple d'Israël et ils cherchaient à détruire la nourriture, à détruire le bétail. Donc, ça veut dire qu'ils ruinaient les champs de blé, ils ruinaient les champs de céréales, ils ruinaient tout ce qu'ils pouvaient de manière à ce que, manquant de nourriture, le peuple d'Israël leur soit assujetti. Et le Seigneur, au milieu de tout ce qui avait peur des Madianites, au milieu de tout ce qui avait peur de tomber aux mains de l'ennemi, se cachait, il en trouve un, Gédéon. Et le Seigneur se tourne vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as, tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Et Gédéon a répondu, mais Seigneur, tu as trouvé ton homme. Voilà, tous se cachent, tous ont peur de ce qu'il va leur arriver, tous ont peur devant ces Madianites, mais Seigneur, moi, enfin, moi, mais bien sûr, je vais sauver ton peuple. Tu as raison, regarde qui je suis. C'était la réaction de Gédéon. Il lui dit, pardon mon Seigneur, mais avec quoi sauverai-je Israël ? Ma fratrie est la plus faible en Manassé et je suis le plus petit dans ma famille. C'est-à-dire qu'il dit, Seigneur, tu t'es trompé de bonhomme. Ah, je t'explique. Non, 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 non. Pas du tout. Il dit, non seulement, attends, je t'explique là. Je vais juste te reconstituer le contexte, Seigneur. Tu réalises que la tribu à laquelle j'appartiens est la plus petite de toutes les 12. Et dans ma famille, c'est moi qui suis encore le plus petit. C'est-à-dire, Seigneur, tu t'es trompé, tu t'es pris un microbe. Franchement, là, tu t'es gouré d'adresse. Tiens, attends, je vais te donner un nom. Lui, là-bas, il a tout ce qu'il faut. Et puis David, ce roi, oh là là, quel homme ! Un roi qui était absolument merveilleux ! Et la Bible nous dit que quand Dieu s'est suscité, David, c'était le plus jeune et il faisait paître les troupeaux. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé se chercher quelqu'un qui avait fait l'école militaire, dont le père était général, le grand-père était général. Il est allé se chercher un bureau, quelqu'un derrière qui était en train de garder les troupeaux. Il est allé se chercher le plus jeune de la famille. Et puis Jérémie, quand le Seigneur lui a dit qu'il faisait de lui le prophète, un grand prophète pour les nations, Jérémie a dit, « Ah Seigneur Dieu, mais je ne saurais parler, je suis trop jeune. » Vous imaginez un prophète qui dit « Je ne saurais pas que dire ?» Ben là, il n'y a plus aucune raison d'être. C'est exactement comme si vous appeliez quelqu'un à être médecin, il dit « Ah mais non, 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 mais moi j'ai peur des transfusions sanguines. » Ou alors qu'on dise, bah, toi tu vas être architecte et puis il a les yeux qui se croisent, il ne voit pas deux traits qui sont droits. Bah, c'était un petit peu cela. On parle de quoi ? On dit, c'est Dieu qui se suscite quelqu'un, et notamment un pasteur, n'importe quel pasteur, et il dit, tu vas être la tête de ce corps. Et à travers ce corps, je vais réaliser ce que je veux dans cette ville, dans cette région et dans ce pays. Moi, je me demande pourquoi y a-t-il tant de gens qui font rien, qui sont des cellules du corps de Christ et qui sont complètement inopérants. C'est-à-dire que pour Dieu, ils ne servent à rien. Bien sûr qu'eux-mêmes ne reçoivent pas les richesses et les bénéfices du corps, mais ce qui est pire, c'est qu'ils ne font rien. Et ils sont bourrés de dons. Ils ont une expérience avec Dieu. Et l'apôtre Paul, parce qu'on pourrait parler de l'apôtre Paul, lui, quand le Seigneur lui est apparu, voilà ce que Paul a pensé de lui-même. Il faut savoir que Paul était un théologien qui a été élevé au pied de Gamaliel, qui était un enseignant, un rabbin, un sacrificateur hors pair. Il a été dans la meilleure école théologique, peut-on dire. Et pourtant, quand le Seigneur est apparu à Paul, Paul dit, il m'est apparu comme à un avorton, c'est-à-dire un enfant qui est né avant terme et qui n'est pas encore pleinement développé. Et il dit, moi en effet, il dit, mais je suis le moindre des apôtres. Alors quand vous voyez un homme ou une femme de Dieu qui est à la tête d'une église, ne pensez pas que le Seigneur s'est choisi le plus haut, la crème de la crème. Et malgré cela, le Seigneur s'attend à ce que toutes les cellules qui doivent constituer ce corps fonctionnent avec cette tête et que son plan soit réalisé dans notre génération à travers cette église locale. Et certains disent, ben, on est mal barré. Peut-être que c'est lui qui fait le travail. Si on est juste à sa disposition et que l'on comprend comment il agit et comment il fonctionne, le Seigneur. Les Pierre et Jean, oh là 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 là, qui n'a pas entendu parler de ces apôtres, Pierre et Jean, et pourtant les Écritures nous disent que c'était des hommes sans instruction, des gens quelconques. Alors, on pourrait dire, mais si alors, si c'est vraiment ça, si c'est comme ça que ça marche, le Seigneur veut agir à travers les églises locales, mais il ne se choisit pas la crème de la crème. Alors, comment va-t-il se débrouiller pour réaliser son plan? Comment va-t-il se débrouiller pour toucher la francophonie? Ben, c'est très simple. Le Seigneur voit les valeurs. Le Seigneur connaît tout à l'avance. Le Seigneur connaît les valeurs de tel ou tel individu. Les valeurs qui sont dans un individu, comme par exemple quelqu'un qui dit, ben moi c'est simple, c'est pas oui ou c'est pas non, c'est juste oui ou c'est non, c'est pas les deux. Quelqu'un qui est peut-être capable de trancher, quelqu'un qui ne cherche pas à plaire aux gens, qui entend la voix de Dieu et qui va aller de l'avant. Dieu connaît les valeurs qui sont dans un être humain. Et il y a des gens qui sont appelés à un âge très jeune, d'autres dans le sein de la mère, et le Seigneur sait quelles valeurs seront dans cet homme, dans cette femme. Et il sait qu'il peut se servir des valeurs de cet homme ou de cette femme. Et puis, il y a également, non seulement il y a la valeur, les valeurs qui sont dans un individu, mais il y a également les désirs qui sont dans un individu. Les désirs les plus profonds. Et les désirs qui sont dans un individu, ça ne se voit pas à l'œil nu, mes amis. Il faut arrêter de juger les gens en fonction des apparences. Moi, quelquefois, je suis à Nice et je vois des personnes qui sont dans la rue et je me dis, mais quel talent, quel destin est caché dans cet homme ou dans cette femme ? Quand je vois des jeunes qui sont sous l'emprise de l'alcool, les pupilles des yeux dilatées, ils sont des robots, ils ne savent pas où ils vont ni ce qu'ils font. Je me pose ces questions, je me dis, mais qu'est-ce qui est caché dans ce jeune? Pourquoi personne n'a réussi à faire en sorte que ce jeune aille vers sa destinée? Les désirs qui sont dans un être humain, Dieu va se servir des désirs. Et je vais vous choquer. Mais parfois, ces désirs sont bons, je ne parle pas d'un pasteur, hein, ou mauvais, mais quoi que ce soit, Dieu peut se servir de tout le monde. Par exemple, Pharaon. Quand on voit comment cet homme a persécuté le peuple de Dieu, Dieu savait que les désirs qui étaient dans Pharaon, c'était des désirs de pouvoir uniquement. Uniquement, pourquoi Pharaon, au moment où le peuple devait partir, était à la tête de l'Égypte? Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'en laissant faire l'humanité, Pharaon serait à la tête de l'Égypte et Pharaon s'opposerait, parce que non pas parce que Dieu a mis de la résistance en Pharaon, mais parce que quand l'occasion s'est présentée de faire ce qui était juste, de laisser aller le peuple de Dieu, quand l'occasion s'est présentée pour que le peuple de Dieu sorte de l'esclavage, Pharaon, à cause de ce qu'il avait dans le cœur, a utilisé cette occasion pour faire ce qu'il voulait. Maintenant, comment Dieu, quand Dieu veut faire quelque chose pour l'Église locale, pour notre génération, pour son royaume, qu'est-ce qu'il fait? Il se suscite un individu. Et tout, dans cet individu, il voit certaines choses qui sont nécessaires à ce qu'il veut faire. Et quelquefois, l'individu ne s'en rend même pas compte. Moi, il y a des tas de choses que je fais maintenant, je ne serais jamais cru capable de le faire. Vous savez, tout ce que vous avez entendu que ces grands leaders ont dit d'eux-mêmes, je l'ai dit de moi. Vous dites, maintenant je comprends. Mais Dieu voit des valeurs. Dieu voit des désirs profonds. Et Dieu met sa vision. La vision que j'ai pour cette église, c'est que ce soit une église de 3000 personnes à Nice. Pas une église de 3000 personnes qu'on ignore. Pas une église de 3000 personnes qui rentrent en se cachant par la porte de derrière dans un bâtiment d'église. Pas de 3000 personnes où les gens s'endorment, où les gens, il n'y a rien qui se passe. Une église vibrante, une église dynamique, une église créative, une église où chacun a sa place, une église où les besoins des gens sont pourvus, une église où quand les gens dans le monde ont un problème, ils disent « si tu vas là, ils vont t'aider ». Voilà le genre d'église. Et moi, je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible d'avoir une église de 3000 personnes à Nice qui est structurée. Je crois que c'est possible d'avoir un groupe de maisons dans chaque quartier. Je crois que c'est possible d'avoir un camp des jeunes où ils ont tout ce qu'il leur faut, non seulement pour qu'ils entendent parler de Dieu d'une manière moderne, avec la meilleure technologie, mais qu'ils puissent aussi se relever des défis qui leur sont. Vous savez, la Via Ferrata, je ne comprends pas pourquoi les chrétiens ne l'ont pas fait. Les acrobranches et tout cela. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas dans un camp de chrétiens, ces choses-là. Je ne comprends pas ces choses. Ça devrait être, chaque camp chrétien devrait avoir ou une Via Ferrata ou alors un acrobranche. Chaque camp chrétien devrait avoir cela. Chaque camp chrétien devrait avoir la meilleure technologie. Chaque église devrait avoir une maison de retraite. Pourquoi les églises n'ont pas des maisons de retraite? Je ne comprends pas cela. Mais je ne parle pas d'une maison de retraite mouroir. Je parle d'une maison de retraite où la présence de Dieu est tangible. Je parle d'une maison de retraite où il n'y a pas une odeur de maladie ou de mort. Je parle d'une maison de retraite où les personnes sont jolies, où le coiffeur vient autant que nécessaire. La manucure est faite. Il y a de la musique, il y a leur jardin, il y a tout ce qu'il faut. La vie continue. Quand un pasteur parle de sa vision, je parle d'une école biblique, bien sûr que on attend que cela soit fait. Mais que se passe-t-il quand un pasteur parle de sa vision? Est-ce que vous croyez que les gens qui viennent dans cette église sont appelés à ne rien faire? Ou est-ce que vous croyez que les gens qui viennent dans cette église, sans le savoir les trois quarts du temps, mais viennent attirés par l'Esprit de Dieu pour que la vision qui est dans le cœur de la personne que Dieu s'est suscitée, pourquoi est-ce que j'aspire à une église moderne? Quand je parle moderne, je ne parle pas de la forme du bâtiment, mes amis. Quand je parle d'une église moderne, pourquoi est-ce que j'ai ça à cœur? Je n'ai jamais compris pourquoi, quand on entrait dans une église, on faisait un pas de un siècle en arrière. Je n'ai jamais compris, même toute nouvelle convertie, jamais je n'ai compris ça. Je n'ai jamais compris pourquoi les gens faisaient la tête quand ils étaient à l'église. Je n'ai jamais compris pourquoi les gens sortaient des églises et avaient la mâchoire qui tombait jusqu'au pied. Je n'ai jamais compris cela. Est-ce que je n'ai jamais compris cela parce que je suis si clairvoyante que cela, Dieu a mis ses désirs dans mon cœur. Dieu s'est suscité quelqu'un, il a mis ses désirs dans cette personne, et quand cette personne marche avec Dieu, alors les désirs de Dieu s'accomplissent. Mais ma question, pourquoi les gens viennent dans cette église? Pourquoi viennent-ils dans cette église? Parce que même il y a quelque chose en eux qui colle, qui va permettre de réaliser cette vision. Par exemple, je voudrais que l'église, la bonne nouvelle, est une maison de retraite. Vous ne pouvez pas savoir combien de personnes dans cette église-ci m'ont dit qu'ils aimeraient être avec des personnes âgées. Vous n'avez aucune idée du nombre de personnes. Autre chose, par exemple, dans cette église, pour moi, le mot « formation » fait partie intégrante de la base de cette église. C'est dans le béton. C'est dans l'ADN de cette église. Je ne conçois pas qu'on ne soit pas formé de toutes ces nouvelles choses qui se présentent à nous. Donc, la formation, l'enseignement, c'est dans l'air qu'on respire. Vous savez combien de personnes sont à même d'enseigner dans cette église? Que le don soit développé ou pas, hein? Mais c'est là. D'après vous, c'est un hasard ou... C'est-à-dire que le Seigneur attire dans les églises. Il attire des personnes qui vont collaborer avec ce qui est dans les désirs, dans le cœur du pasteur. Maintenant, que se passe-t-il? Ce que je vois beaucoup, c'est qu'il y a des professionnels, il y a des hommes, des femmes d'affaires, il y a des personnes qui ont vraiment des expériences ou dans tel ou tel domaine. Il y en a d'autres qui ont beaucoup de temps libre devant eux et qui, au lieu d'aider la personne que Dieu s'est suscité à réaliser les plans qu'il a lui-même mis en lui ou en elle, font leurs petits trucs de leur côté. C'est-à-dire que pendant qu'ils montent leur petit groupe, pendant qu'ils sont en train de publier leur petit bouquin là, qui va aller nulle part, ce que le Seigneur a mis comme vision pour une église ne s'accomplit pas, parce qu'il y a des fuites de partout. Par exemple, je pense que tout le monde a compris, le 13 novembre arrive bientôt. Il y a un silence dans cette église, c'est impressionnant. Dites donc, là, vous m'impressionnez, là. Hein. Mais on est à l'église, on dit les choses. Hein. Par exemple, le 13 novembre arrive et l'accent est mis sur le fait de montrer notre soutien à Israël. Et puis, l'accent est aussi mis sur l'information. Il faut que les chrétiens soient informés concernant Israël. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des chrétiens qui pensent faux, qui font faux, et qui se mettent à travailler contre le plan que Dieu a. Alors ça, c'est un non-sens, c'est incohérent. Et donc, Église la bonne nouvelle, je pense que c'est clair. Nous donnons la main d'association à Israël. Nous sentons que nous avons sur nous ce qui est nécessaire pour que le désir de Dieu s'accomplisse vis-à-vis de la communauté juive à Nice. Et puis pro ne veut pas dire anti, hein. C'est pas pareil. Parce que quelquefois on est un peu taxé de « Oh, vous êtes pro, donc vous êtes anti ». Être pro, ça veut dire juste être pour. Être pour ne veut pas dire être contre d'autres. Donc vous imaginez bien que quand, pour que cette vision-là non seulement de soutenir la communauté juive, mais pour moi, il n'y a pas de soutien à la communauté juive derrière quatre murs. Et puis, dans ma tête, juste dans ma petite tête, je ne peux pas comprendre que l'Église en France se taise quand la France s'abstient, ce qui veut dire à voter contre, s'abstient à reconnaître que le mont du Temple est uniquement lié à l'histoire juive. Et donc les chrétiens se taisent. Et moi, je ne comprends pas ça, je dois vous dire, je ne comprends pas cela. Donc, dans ma petite tête, plus on est nombreux à faire ce que la Bible nous dit, c'est-à-dire que nous avons une dette vis-à-vis des Juifs, plus ça va se savoir. Et vous savez, dans notre pays, comme dans n'importe quel pays, le nombre parle. C'est-à-dire que si nous avons 4 personnes qui pestent en disant « Ouais, je comprends pas, regarde un petit peu, la France a été lâche. » Je vais le dire, elle a été lâche sur ce coup-là. Bon, on dit d'accord, c'est une chose. Maintenant, quand vous avez 20 000 personnes qui, d'une même voix, disent « On refuse cette décision qui a été prise », vous ne croyez pas que c'est autre chose ? Ma question, est-ce que Dieu peut accomplir son plan à travers 20 000 personnes ? Est-ce que Dieu peut faire quelque chose à travers une église de 3 000 personnes ? Est-ce qu'une personne vit mieux dans une église de 3 000 personnes ou vit mieux dans une église de 5 ? Est-ce que les besoins d'un chrétien sont mieux pourvus à travers une église de 3 000 personnes ou à travers un petit groupe de maisons de 5 ? Hein ? Il faut répondre à cette question. Il faut répondre à cette question. Alors, je peux vous dire, je sens des tas de changements. Il y en a beaucoup dans le monde, beaucoup dans la société. Les nations sont en train de se mettre en place conformément à ce qui est écrit dans les Écritures. Et notre œil est en train de le voir. Tous les jours, on peut le voir, que les Écritures s'accomplissent sous notre nez. Et ma question est, que veulent les églises pendant ce temps-là ? Et que fait l'Église, la bonne nouvelle ? Si vous voyez ce que je vois, vous savez, pratiquement tous les soirs, je visionne cette pièce remplie avec les gens qui attendent à la porte. Pratiquement tous les soirs en m'endormant. Pour m'endormir. Et ça va vite, hein ? Pratiquement. Et puis quelquefois dans la journée, je reprends cela. Et puis je vois ces 3000 personnes devant moi. Je les vois. Je vois cette église-là. J'entends les enfants qui rient. Je vois ces pièces qui sont bien décorées pour eux. Je vois l'estrade qui est magnifique, qui est refaite. Je vois toutes ces choses-là. Mais ça ne suffit pas que je vois ce que Dieu voit. Quand il y a des fuites dans une église, parce que les uns font leur petit truc, les autres font leur petit truc, alors dans ces cas-là, on va nulle part. Donc d'abord, sachez que vous faites partie d'une église qui va quelque part. Sachez que vous faites partie d'une église qui a un futur. Et ce que j'ai à cœur, c'est la francophonie. Il n'est pas étonnant que si vous rêvez, par exemple, d'avoir une formation biblique, vous soyez dans cette église. Il n'est pas étonnant que si vous aimez ce qui est moderne et ce qui bouge, vous soyez dans cette église. Il n'est pas étonnant que si vous voulez avoir une voix en France, vous soyez dans cette église. Il n'est pas étonnant que si vous aimez étudier et les livres, vous soyez à l'église La Bonne Nouvelle. Il n'est pas étonnant que si vous aimiez un certain style de louange, vous soyez à l'église La Bonne Nouvelle. Il n'est pas étonnant que si vous voyez vos jeunes servir le Seigneur avec, mais pas style garderie, style des jeunes qui marchent avec Dieu, vous soyez dans cette église. Vous savez, chaque église, chaque pasteur a sa vision. Moi, je trouve magnifique, quand j'entends parler de la vision de certains de mes collègues, je trouve ça absolument magnifique. Mais ici, la question est, est-ce que vous voyez ce que je vois ? L'année qui est devant nous, cette année-là qui vient de passer, je dis cette année qui vient de passer en fonction du calendrier biblique, a été magnifique. Elle nous a propulsés. Moi, je veux voir des hommes et des femmes d'affaires fortes qui sortent de cette église. C'est-à-dire des hommes et des femmes d'affaires qui ont une grande vision. Des hommes et des femmes d'affaires qui savent ne pas faire de compromis face aux pressions du monde. Des hommes et des femmes d'affaires qui entendent la voix de Dieu pour échapper aux pièges qui sont devant eux. Voilà le style d'église. Oh là là, ça pense, hein, sous les scalpes là. Maintenant, la question est, est-ce que tu veux être actif dans cette église ou est-ce que tu veux faire partie du grand gaspillage? Ça, c'est chacun qui répond. Qu'est-ce que tu veux? C'est fabuleux de contribuer à une vision parce qu'on se rend compte qu'il y a des tas de choses qui sont suscitées en nous. Et la Bible nous dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais chaque église fonctionne comme un corps. À nouveau, le plus grand gaspillage qu'il y a n'est pas alimentaire en France. Le plus grand gaspillage qu'il y a dans les églises en France, c'est que les gens ne savent pas comment accomplir la vision de Dieu à travers le plan qu'il a lui-même instauré depuis des millénaires. Dis à ton voisin, je vais faire ma part. Dis à ton voisin, à la fin de ma vie, il y aura quelque chose à raconter. Il y a quelque chose que j'aurai fait pour Dieu. C'est une des choses que l'on veut pour cette église, et je l'ai eu depuis le départ, tout départ, c'est la radio et la télévision. La radio et la télévision. Alors, il y a des choses qui n'ont pas pu se faire jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'il y a parce qu'il y a un temps, le temps de Dieu pour tout. Ça, c'est une chose, ça, c'est absolument certain. Et puis, une autre raison, c'est parce qu'il y a des gens qui devraient être ici et qui ne sont pas ici. C'est aussi simple que cela. Il y a des personnes qui auraient dû venir ici, c'est une femme à la tête. Et regarde plutôt s'il y a l'onction. Regarde si plutôt la vie des gens est transformée. Et puis, la première chose que l'on veut faire, c'est étudier la Bible. Mais parce qu'il y a des personnes qui préfèrent faire leur petit film sur Internet, poster leur petit truc sur Internet, au lieu de le jouer collectif dans un corps, eh bien, il y a des choses qui ne sont pas faites. Des musiciens! Il y a des musiciens avec le style de louange que je veux. Il y a des musiciens qui devraient être ici. Donc, on ne peut pas juger les choses en fonction des apparences, mais se dire, pourquoi est-ce que j'ai à cœur ce que j'ai? Vous avez remarqué une chose, c'est qu'on aime bien manger dans cette église. Ah bah tout de suite, il y a des sourires là. Hein. Tout de suite, oh là là là, manger, elle a dit manger, le verbe magique. Pourquoi? Parce que je crois fermement dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. Et que le fait de se retrouver à rire ensemble autour d'une table, eh bien, pour moi, c'est élémentaire, c'est indissociable. C'est-à-dire que juste aller et venir sans jamais participer à quoi que ce soit, je n'arrive pas à penser comme cela. Donc, pensez aux choses que vous savez faire, aux choses que vous aimeriez faire. Et au fur et à mesure où les projets avancent dans l'Église, eh bien, allez trouver les différents responsables et dites, tu sais, moi j'ai entendu qu'il y a ça qui se fait. Eh bien, tu as le désir de faire une conférence de prière qui soit internationale avec 500 personnes à la fois, 1000 personnes à la fois. Ok, je peux accueillir les gens à la porte. Ah, tu as le désir de publier d'autres livres. Écoute, moi, je traduis. Je peux très bien traduire. Je sais comment formater. Ah, tu as le désir de passer, que tous les cultes soient sur Internet. Moi, tu sais, l'informatique, ça me connaît. Écoute, moi, je veux bien. Ah, tu as le désir que les enfants soient éduqués dans les Écritures. Ah, moi, tu sais, moi, j'ai la patience avec les enfants. Ah, tu veux que l'Église soit impliquée auprès des personnes âgées ? Mais moi, j'aime être avec les personnes âgées. Voilà comment ça marche. Mais les églises locales, le Seigneur ajoute à l'Église locale les gens qui vont correspondre à la vision que le Seigneur a placée dans le pasteur. C'est aussi simple que cela. Donc, si vous venez et revenez, ici, il y a quelque chose qui doit correspondre au plus profond de vous, à ce qui est au plus profond de moi.